Zoom Info sur Europe 1, c'est un fait bien établi désormais en France. On a un petit problème de confiance, hein. Ça ressort de toutes les enquêtes, de tous les baromètres. Les Français n'ont plus confiance dans les médias, dans les banques, dans les syndicats, mais surtout en les politiques. Je vous cite la dernière enquête Cevipof sur le sujet, elle date de 2019, mais je pense pas que les tendances aient fondamentalement changé. 85% des personnes interrogées, donc il y a deux ans, hein, considéraient que les responsables politiques ne se préoccupent pas d'elles. 74%, donc 3 Français sur 4, que les politiques sont plutôt corrompus. 61% n'ont confiance ni en la gauche, ni en la droite. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Comment sont morts les politiques? C'est le titre de votre dernier livre aux éditions du Cerf. Ce livre, c'est l'histoire d'un dégoût, celui des Français, non pas pour la politique, mais pour ceux qui la font, les élus, les partis et les médias aussi, hein, qui les suivent. Dégoût qu'ils disputent à la colère et l'indifférence, dites-vous. Est-ce que l'on peut dater le point de basculement, finalement? Y a-t-il eu une phase enchantée dans la relation des Français et des politiques?
Je ne sais pas. De toute façon, les politiques ont toujours été très critiquées. L'histoire politique le démontre. Mais il y a une réalité qui s'est inscrite dans la profondeur depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on voit... Il y a quand même un indicateur qui est très important. C'est l'indicateur de la participation électorale. Ce qu'on constate depuis maintenant 3 décennies, c'est une baisse progressive de la participation électorale. Pratiquement toute élection confondue, avec une petite exception sur l'élection présidentielle qui constitue encore le moment moteur de la vie politique française. Et finalement, cette baisse de la participation, elle signifie que une grande partie de l'opinion publique aujourd'hui considère que le politique est d'une certaine manière impuissant. C'est-à-dire impuissant à répondre aux problèmes qui sont ceux des Françaises et des Français. Donc cela se traduit par une désertion des bureaux de vote. Et cela se traduit en effet par ces traits d'image que vous venez de citer, où on voit que le politique est aux yeux d'une grande partie de l'opinion publique comme déclassé. Finalement, quand on regarde l'histoire de la politique en France, ça a quand même été, depuis la Troisième République, une histoire de l'excellence. C'était d'une certaine manière un processus qui écrêtait au sommet et qui faisait venir au sommet les meilleurs. Des normaliens, des intellectuels...
des énarques.
Des énarques également. Et ce qu'on constate quand même maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est que le recrutement même du politique, lui aussi, connaît une forme de crise des vocations.
Le niveau baisse, hein. C'est que le niveau baisse ou que les meilleurs vont ailleurs, vont dans le privé?
L'activité politique est de plus en plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est que les marges de manœuvre du politique apparaissent comme particulièrement rognées. On a beaucoup parlé de l'interdépendance, on a beaucoup parlé de la mondialisation qui fait que dans des sociétés comme la société française où l'État-nation jouait un rôle particulièrement important, où des attentes très fortes étaient investies par de larges segments de l'opinion publique dans l'action publique, font que aujourd'hui, peut-être en effet, ceux qui considèrent que finalement exercer une activité c'est fabriquer quelque chose, ne trouvent plus dans la politique le sens qui pourrait être le sens de leur existence.
Alors vous livrez d'ailleurs au début du livre une définition de la politique. Qu'est-ce que c'est la politique?
La politique, quand on regarde et quand on lit les grands auteurs de la philosophie politique, c'est 3 fonctions essentielles. La première fonction, c'est diriger, c'est commander, c'est protéger, c'est fabriquer une société, c'est projeter un avenir. La deuxième fonction, c'est dans un système démocratique, c'est débattre, c'est délibérer, c'est finalement faire en sorte que des expressions d'opinion publique différentes participent à la production de la décision politique. Et la troisième fonction, qui est la plus ancienne, c'est celle qui consiste à désigner l'ennemi, comme le disait le philosophe et juriste allemand parfois décrié, Carl Schmitt.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? La crise du politique, elle vient d'où? Est-ce que c'est qu'il y a un déficit des capacités de commandement, du charisme, du leadership, comme on dit en anglais? Est-ce que ça vient du fait qu'il n'y a plus d'ennemis? Ou est-ce que ça vient d'autre chose? Vous citez 3 causes, vous dites il y a d'abord la mondialisation, globalisation, il y a la technocratisation, à savoir que le politique, c'est ce que disait Nicolas Sarkozy, il disait 100% de l'énergie qui sort de mon bureau, il en arrive entre 1 et 10% sur le terrain. Et vous dites il y a aussi les nouvelles concurrences, les ONG, les GAFAM, les puissances de l'argent, etc. Oui.
Alors, il y a ces trois phénomènes. En effet, il y a le phénomène d'interdépendance, le fait que la mondialisation, finalement, fait qu'un certain nombre de décisions sont prises dans des instances qui sont des instances supra-étatiques et inter-étatiques. C'est le cas de l'Union européenne, c'est le cas de l'OMC, donc une espèce de déperdition du pouvoir politique national. Le deuxième élément, c'est qu'on a de nouvelles formes d'organisation qui viennent, en effet, concurrencer les organisations politiques classiques. C'est notamment le cas des GAFAM, qui sont à la fois des puissances technologiques, culturelles, politiques, qui viennent très souvent contester, d'une certaine manière, même les attributs régaliens des États. Et le troisième élément, c'est en effet ce processus de technocratisation. C'est-à-dire que, en fait, un certain nombre d'enjeux ne sont plus politiques, mais ils sont uniquement techniques. Et d'ailleurs, ils sortent du champ de la délibération politique, puisqu'on considère que, finalement, on n'a plus à en discuter, bien au contraire, et qu'ils doivent être gérés par un certain nombre de technocrates. Oui. Qui,
la vaccination, par exemple, est-ce que ça entre dans ce cas-là?
La monnaie, par exemple. La question de la monnaie est très intéressante. La question de la monnaie, il y a 30 ans, finalement, on décide, d'une certaine manière, de sortir ce qui constitue un attribut régalien fondamental de la politique. Hein. Battre monnaie, les rois battaient monnaie, l'État battait monnaie, et de le confier à une instance indépendante, la Banque Centrale Européenne. Donc, vous avez ce phénomène, finalement, de technocratisation de la vie publique, qui fait aussi qu'un certain nombre de nos concitoyens considèrent qu'aujourd'hui, la politique se fait ailleurs et elle ne se fait plus dans l'instance démocratique. Alors, avec un phénomène très français, à mon avis, qui est lié à un événement politique, qui est un événement politique, à mon sens, tout à fait majeur, c'est le référendum de 2005. Le référendum de 2005, où une majorité de nos concitoyens vont se prononcer contre le projet de traité constitutionnel européen, projet de traité constitutionnel européen qui réapparaît sous une forme un peu amodiée en 2008 avec le traité de Lisbonne, ce qui va instiller l'idée que, finalement, le fait d'aller voter ne sert à rien, puisque la parole que vous avez exprimée n'est pas prise en compte par les élites politiques.
Et ça, c'est grave, parce que sur cette affaire du référendum, il y a le sentiment, en plus, d'une traîtrise, à savoir que c'est le responsable politique lui-même qui décide de ne pas tenir compte de la volonté populaire.
Ah oui, c'est à mon avis une rupture absolument essentielle qui explique aussi la démonétisation et la dévalorisation de l'acte de voter. Alors, ça ne veut pas dire, sur le fond, que l'opinion publique, que les Françaises et les Français soient hostiles à l'activité politique en tant que telle. Il y a un besoin de politique qui se manifeste. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes était très intéressante de ce point de vue-là à analyser, parce qu'elle montrait que vous aviez un certain nombre de catégories, notamment les catégories populaires, qui venaient d'une certaine manière sommer le politique de produire à nouveau des décisions en termes de pouvoir d'achat, des décisions en termes de maintien des services publics dans les zones dites périphériques. Donc il y a un besoin de politique qui s'exprime, mais ce besoin de politique aujourd'hui ne rencontre pas l'offre des grandes formations politiques.
On va parler justement de cette recomposition politique française, du retour aussi dans le débat public, à droite comme à gauche d'ailleurs, du thème de la souveraineté, comme un retour du refoulé d'une certaine manière. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, est avec nous pour son livre « Comment sont morts les politiques ?» À tout de suite. Europe 1.